Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h31.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Muriel Levrault. Elle est députée LFI NUPES de la 4e circonscription des Côtes d'Armor. La circonscription de Guingamp, elle est venue en direct au micro de la matinale depuis Guingamp, sans trop de bouchons je l'espère, pour être avec nous. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Muriel Levrault, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. On a ces mouvements, ces manifestations qui s'annoncent denses. En tout cas, si l'on en voit les chiffres, si l'on en croit les chiffres qui sont avancés par les différents services de renseignement. Est-ce que pour vous, c'est l'amorce d'un tournant dans la gouvernance de Elisabeth Borne sur cette réforme des retraites ?
Eh bien, on l'espère en tout cas. Il faut vraiment que cette mobilisation soit importante pour vraiment faire... On souhaite vraiment que cette réforme ne passe pas, puisqu'elle est injuste. Elle prévoit le recul de l'âge légal de la retraite à 64 ans avec 43 annuités. Elle va faire travailler plus longtemps les personnes avec en plus une baisse de pension. Alors il prévoit 1200 euros, mais c'est 1200 euros brut. Mmh. Il faut bien comprendre. Et 1200 euros brut, ça fait du 1090 net. Et le seuil de pauvreté, c'est 1128 euros. Donc on trouve pas le compte.
Sur l'âge de la retraite, 64 ans, Elisabeth Borne a dit « c'est pas négociable, je serai inflexible ».
Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se mettre en grève et beaucoup de personnes vont manifester. Donc j'appelle tout le monde à rejoindre les manifestations sur Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Lannion. Il y en a partout. Donc normalement, on peut trouver une manifestation près de chez soi. Il faut vraiment se mobiliser. Cette réforme ne doit pas passer. Il ne faut pas qu'on se laisse faire.
On avait aussi ce dépôt de plus de 7000 amendements, là, beaucoup d'ailleurs de votre groupe politique, de la NUPES et des filles. On a parlé d'obstruction. Est-ce que pour vous c'est une obstruction ou c'est la démocratie qui s'exprime ?
Ah, c'est la démocratie qui s'exprime, ça c'est sûr. Et on a vraiment besoin de débattre. Donc là, effectivement, le texte est passé en commission des finances vendredi dernier pour avis. Et là, en ce moment, mes collègues travaillent en commission des affaires sociales et défendent des amendements, alors qu'ils sont tout à fait justifiés. Non, il faut vraiment alimenter les débats. Alors, il faut savoir que le gouvernement utilise un stratagème avec ce projet de loi de finances de la sécurité sociale rectifié qui réduit les délais à 20 jours. Et 20 jours pour un texte pareil, c'est vraiment très court. Donc, c'est un peu un 49-3 déguisé, si vous voulez. Donc, on voit bien quand même qu'il y a là un essai de passage en force pour ce texte de loi.
Vous le craignez justement ce passage en force sans grande marge de manœuvre ?
En tous les cas, donc là on a déjà eu dit 49-3 la dernière fois, elle continue. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse se mobiliser aussi dans la rue pour bien montrer notre désaccord. Puisqu'il n'y a plus de débat en hémicycle ou en commission, il faut vraiment qu'on puisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Voilà la raison pour laquelle il y aura du monde dans la rue aujourd'hui.
On a reproché à certains députés de la NUPES justement d'être très ferme, parfois même de prendre des positions qui étaient un petit peu en dehors de leur cadre. Alors on a entendu ce député hier, il me pardonnera, son nom m'échappe, qui a dit en commission justement, si on coupe l'électricité à quelques nantis, voilà, ça ne sera pas la peine de venir pleurer. Est-ce que pour vous, il a un petit peu dépassé les bornes ou finalement il est dans son rôle de député ?
Alors, il est dans son rôle de bien expliquer ce qui se passe et de montrer que parfois on est vraiment obligé puisque il y a plus de possibilité de débat. Les syndicats vont utiliser peut-être d'autres manières de faire pression. Après, la violence, elle n'est pas du côté des syndicats là pour le coup. La vie est dure pour tout le monde. Cette réforme, non seulement elle est injuste, elle est injustifiée, mais en plus on nous l'inflige. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débordement à ce niveau-là.
Alors, on sait le désamour des Français avec le personnel politique aujourd'hui. On le voit lors des élections où beaucoup de Français, finalement, on pourrait le dire peut-être par dépit, par désintérêt de la chose publique, ne vont plus voter aujourd'hui. Est-ce que ces manifestations qui s'annoncent, là encore, hein, ce sont les chiffres qui nous sont communiqués, qui s'annoncent importantes, pour vous, femme publique, femme députée, est-ce que ça nourrit aussi l'espoir de, j'allais presque dire, recoller les morceaux avec les femmes, les hommes politiques qui essaient de faire bouger les choses?
Alors oui, et puis il est vraiment temps que les personnes comprennent que là, si on était majoritaire dans l'hémicycle, on ne passerait pas ce genre de réforme, vous voyez. Effectivement, pour l'instant, il nous manque encore quelques députés pour pouvoir vraiment mettre en place notre programme. Mais une révolution citoyenne, c'est encore possible. Donc il faut effectivement que les gens se déplacent dans les urnes. Faudra pas oublier aux prochaines élections qu'on a besoin de monde.
Alors justement, le mot révolution, vous l'avez... alors on n'a pas de révolution aujourd'hui en France, hein, je rassure nos auditeurs. Il n'y a pas eu de proclamation quelconque. Mais ce mot révolution fait peur aujourd'hui. Malgré tout, on voit une grande précarité, de grands soucis des Français pour pouvoir se loger, pour pouvoir manger, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir payer leur électricité. Est-ce que c'était finalement le moment le pire pour essayer de faire passer cette réforme des retraites?
Oui, vraiment, c'est pas le moment. Déjà, les gens peinent à régler leurs factures. Il y a, 40% des personnes qui ne travaillent pas arrivées à 62 ans. Et là, on va prolonger de 2 ans leur précarité. C'est difficile d'imaginer pire. Mmh. Donc, effectivement, c'est ni le moment ni à faire.
Alors avec aussi, toujours dans cette précarité que l'on voit aujourd'hui, des gens qui essaient de se raccrocher à une idée politique. Alors on parle comme référence de 1995 avec ces grandes grèves. Est-ce que vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites ce serait bien qu'on aille vers cette référence de 1995, cette rue qui a fait plier finalement à l'époque le gouvernement Juppé?
Ah oui, il faut faire une belle démonstration là aujourd'hui et sans doute les jours à venir. On va voir comment les syndicats décident d'orienter la lutte. Nous, on est derrière eux, hein, de toute façon. Donc on va continuer.
Il y a une lutte politique finalement,
en plus de la lutte syndicale. Bien sûr. Alors justement, là, on fait une réunion publique, hein, toutes les forces de la NUPES le 3 février prochain, vendredi prochain à Saint-Agathon, avec toutes les forces de la NUPES. Et on va expliquer, chacun à notre manière, pourquoi on est contre cette réforme des retraites et donner des arguments à tous pour qu'ensuite ils puissent aller eux aussi batailler dans les rues.
Alors une intersyndicale un peu inattendue qui a surpris aussi d'ailleurs le gouvernement parce que on disait voilà les syndicats vont y aller en ordre dispersé, la CFDT qui d'habitude est quand même plus encline à discuter avec le gouvernement des réformes, etc. Ça lui est reproché d'ailleurs. Là, on a vu une intersyndicale qui s'est réunie et on n'avait pas vu ça depuis 12 ans quand même. Est-ce que pour vous, femme politique, c'est aussi l'espoir de voir la société civile bouger?
Oui. Si la CFDT va jusqu'au bout, suit jusqu'au bout l'intersyndicale, normalement, là, il y a vraiment une possibilité d'aboutir à une union et à un vrai rapport de force pour mener cette bataille jusqu'au bout.
Alors, on entend, il y a la réforme des retraites, évidemment, ce projet qui ne passe pas. Et puis, on entend, au-delà de cette réforme des retraites, beaucoup de revendications des gens, je le disais tout à l'heure, dans la précarité. On a entendu les étudiants, on entendait ce matin des représentants des étudiants sur notre antenne à 7h20. Au-delà de ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer autour de ce refus de cette réforme des retraites. On voit aussi la ruralité qui s'exprime, parce que beaucoup de choses n'existent plus dans une campagne. On pense au service public et on va en dire un mot avec la maternité de Guingamp, chère à votre cœur. Donc voilà, on a le sentiment aussi qu'il y a un ras-le-bol général.
Ah ben, c'est certain, puisqu'on voit nos services publics disparaître, notamment en ruralité, mais partout ailleurs. Et effectivement, c'est un tout, hein. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Et d'ailleurs, s'ils veulent faire cette réforme des retraites, ils la justifient aussi. C'est parce que, en baissant le nombre de fonctionnaires, notamment, et donc en supprimant des services publics, on baisse aussi les cotisations. Mmh. Voilà la raison peut-être aussi pour laquelle ils veulent faire leur réforme actuellement, c'est qu'ils veulent veulent continuer à baisser le nombre de fonctionnaires. Donc, quand on voit déjà l'état de nos hôpitaux, les écoles, on perd encore des classes.
47 fermetures de prévues, je crois, dans les Côtes d'Armor.
Oui, enfin, peut-être un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup, alors qu'on est quand même dans des zones... au lieu de supprimer des postes d'enseignants, on pourrait améliorer les conditions de travail dans les classes avec moins d'élèves, et ça serait parfait. Pour ce qu'il en est des hôpitaux, effectivement, moi j'ai visité les hôpitaux du département au mois de septembre. Il manque du personnel dans tous les hôpitaux. Et là, on nous annonce la fermeture de la maternité, l'éventuelle fermeture, parce qu'on ne va pas se laisser faire non plus, de la maternité de Guingamp, sous prétexte qu'il n'y aurait pas, on ne trouverait pas de sage-femme. Alors, a priori, la démographie au niveau des sages-femmes, elle n'est pas comme celle des infirmières ou des aides-soignantes. On trouve des sages-femmes. Par contre, il faut effectivement leur donner des bonnes conditions de travail avec des salaires corrects. Donc, à voir là s'il n'y a pas une question de management un peu défaillante, effectivement, sur la maternité. Alors, si on fermait les services à chaque fois qu'on manquait d'infirmières et d'aides-soignants, on fermerait tous les services. Il faut voir ça aussi.
Il y a un ras-le-bol aussi. Alors, peut-être pas des sages-femmes, mais en tout cas des personnels soignants. En règle générale, on le voit dans les hôpitaux, que ce soit les internes, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, souvent des femmes, qui en ont ras-le-bol aujourd'hui. Le Covid est passé par là. Elles ont envie de changer de vie.
Parce que comme elles ne sont pas assez... je dis elles parce que souvent, ce sont des femmes. Elles ne sont pas assez nombreuses. Donc, elles travaillent beaucoup, dans des conditions dégradées, donc il y a une perte de sens du métier, effectivement. Et jusqu'à quand ? Pour l'instant, c'est magnifique, parce que les hôpitaux tiennent grâce à leur engagement, à leur dévouement. C'est vraiment... là, je dois avouer que tout le personnel que j'ai rencontré, moi, au mois de septembre, était vraiment exceptionnel. Mais jusqu'à quand ? Ça ne peut pas durer. Non, on a vraiment besoin de moyens dans les hôpitaux, ça devient urgent. Et notamment, également, dans la psychiatrie.
Voilà. Alors, justement, la psychiatrie, c'est le parent pauvre, aujourd'hui. On le voit ici, en Bretagne, en particulier.
Oui. Donc là, il y a vraiment des difficultés. Et donc, ça crée des problèmes de santé publique, mais aussi de sécurité publique. C'est vraiment très, très important de revoir. C'est toute la politique publique de santé qui est à revoir. Il y a vraiment un gros chantier.
Alors, on a l'impression, au-delà de ce chantier de la réforme des retraites, et vous le dites très bien, Muriel Levrault, qu'il y a de nombreux chantiers en France. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas tous conduits, finalement, la même vitesse. Est-ce qu'il faudrait faire un plan général pour essayer d'éviter que le pays... Alors, on ne va pas rentrer dans le catastrophisme ou sombrer dans...
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'arranger les choses. Tout ce qui constitue un marché est bon à prendre. Donc là, c'est pas de l'incompétence. Il y a une véritable volonté politique de détruire tous ces services publics.
Faut arrêter la monétisation, finalement.
La T2A dans les hôpitaux, ça a créé... Voilà où on en est. Mais c'est un choix politique, c'est une volonté politique. Donc c'est projet contre projet, là, effectivement. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent bien pourquoi il faut aller voter. C'est parce que c'est vraiment un projet et donc la destruction des services publics est prévue par la politique libérale, en fait.
Alors, cette politique libérale, elle est souvent pointée du doigt. On parlait tout à l'heure de la précarité. On a beaucoup parlé en fin d'année dernière, en début de cette année, de ces profits des grandes entreprises. Alors, on a beaucoup montré du doigt Total, les énergéticiens, en règle générale, au moment où les gens ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Est-ce que là aussi, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, si vous me permettez le terme, et puis revoir ce système, faire en sorte que... Il y a un meilleur partage des richesses, on l'entend.
Tout est dans la redistribution des richesses créées, parce que ce sont les travailleurs qui créent les richesses. Les travailleurs ne récupèrent pas le fruit de leur travail. C'est assez simple pourtant, mais c'est pareil, c'est une volonté. Si on allait chercher ne serait-ce que 2% des dividendes, des actionnaires, là, déjà, on pourrait régler pas mal de problèmes, notamment pour les retraites. Ça pourrait se financer de cette manière.
Alors, on parle de politique, finalement, mais on va faire un petit peu de politique fiction. Si demain, cette réforme des retraites, finalement, est adoptée par l'Assemblée nationale, donc à valeur de loi, qu'est-ce qui peut se passer, selon vous ? Comment vous vous sentez dans le climat actuel? Qu'est-ce qui peut arriver?
Alors déjà, si cette réforme est adoptée, ça va paupériser toute une partie de la population, et notamment ceux qui n'étaient pas dans l'emploi et qui vont rester sans emploi plus tard. Et les jeunes, par la même occasion, vont rentrer aussi plus difficilement dans l'emploi.
Elisabeth Borne dit qu'au contraire, ça favorise l'emploi des jeunes.
Non, il n'y a pas de... Je ne vois pas en quoi ça peut favoriser l'emploi des jeunes. Ils ont déjà des difficultés à rentrer dans l'emploi. Hein. Souvent, on leur demande de l'expérience, etc. Non, ça ne favorise absolument pas l'emploi des jeunes.
De l'autre côté de la pyramide ou de l'échelle des âges, on a les seniors. Comme on le dit pudiquement, Elisabeth Borne, le gouvernement souhaiterait que les seniors soient encore plus souvent embauchés dans les entreprises, puisqu'on sait aujourd'hui qu'à peu près à partir de 55-60 ans, finalement, on préfère, embaucher des jeunes ou une jeune génération en tout cas. Est-ce que pour vous, l'emploi des seniors, c'est la priorité ou pas forcément ?
L'emploi, c'est la priorité en règle générale, que ce soit pour les jeunes, pour les seniors. Il y a certainement du travail à faire pour tous les âges. Améliorer les conditions de travail, certainement. Plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile. Plus il y a de l'inaptitude, des arrêts de travail, etc. Donc en plus,
il y a des métiers plus difficiles que d'autres.
Il y a des métiers plus difficiles que d'autres. C'est pour cette raison pour laquelle on ne peut pas demander à ces personnes de travailler encore plus longtemps. Mmh. Non, je pense que là, Elisabeth Borne se trompe vraiment de projet.
Les femmes, on en parle beaucoup aussi, l'emploi des femmes, et cette retraite n'est pas forcément ce qui peut leur arriver de mieux aux femmes qui ont parfois des carrières
hachées,
ne serait-ce que par l'arrivée des enfants, la maternité.
Voilà. Ce sont les grandes perdantes de la réforme, les femmes. Oui. Donc, une raison de plus pour aller manifester aujourd'hui.
Alors moi, je suis un homme, mais...
Avec les hommes, bien sûr.
Alors, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une refonte du système du travail en France, d'une refonte aussi d'indemnité chômage, parce qu'on entend beaucoup, en marge des gens qui vont manifester, quand on leur tend le micro, souvent on dit, oui, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi l'allocation chômage, une forme de précarisation, là, pour le coup.
Oui, parce qu'on a réduit les assurances chômage pour les personnes sans emploi, donc effectivement, c'est dur pour la population là. Ça fait beaucoup quand même.
Oui. D'un point de vue politique, comment la NUPES, votre groupe politique, peut peser à l'Assemblée nationale? Alors, on a parlé tout à l'heure de ces amendements, de ce grand nombre d'amendements. Comment la NUPES peut peser pour essayer d'inverser la tendance, pour essayer de faire bouger les lignes?
Alors, dans l'hémicycle, on se bat tous les jours.
On lui reproche parfois d'être un peu bruyante à la NUPES.
On n'est pas les seuls. Non. Quand on est dans l'hémicycle, on entend. C'est vraiment de tous côtés. On n'est pas bruyant. On veut faire valoir nos arguments. C'est très différent. On veut des débats. Et on argumente, amendement par amendement. Et c'est vraiment nécessaire pour qu'on comprenne très bien qui veut quoi. C'est très important. Parce que certains pensent que, par exemple, le Rassemblement national va régler les problèmes sociaux. Mais quand on voit qu'ils ont voté contre, par exemple, l'augmentation du SMIC à 1600 euros, on voit... Donc c'est à l'intérieur de l'hémicycle qu'on voit qui fait quoi. En commission aussi. Commission et hémicycle, on voit qui veut voter quoi, quels sont les projets. C'est très important. On ne bordélise pas du tout, on défend nos arguments, c'est très différent.
Vous avez prononcé le mot Rassemblement national. On voit aujourd'hui que nombre de jeunes, de gens dans la précarité se tournent vers le Rassemblement national. Alors, pas forcément pour adhérer à des idées, mais pour une forme d'espérance, pour essayer de changer les choses. Est-ce que pour vous, vous imaginez que ces personnes font fausse route ?
Oui, bien sûr. Très souvent, le Rassemblement national vote en même temps que les mêmes amendements que le gouvernement. Notamment, je vous ai dit, pour les 1600 euros, pour le SMIC, ça a été un refus catégorique. On voulait augmenter les salaires, mais ça a été impossible à faire entendre au Rassemblement national comme aux macronistes. Non. L'augmentation des salaires, c'est pas possible. Donc, des petites primes par-ci, par-là, des petits chèques par-ci, par-là, mais rien qui va améliorer améliorer à long terme la situation des Français.
Oui, parce que finalement, un chèque, c'est bien, mais on le voit d'ailleurs avec ce chèque pour l'essence, enfin en tout cas pour le carburant, qui n'est pas forcément, qui n'a pas rencontré un grand succès, puisque les gens ne l'ont pas forcément demandé. Est-ce qu'il y a un peu un ras-le-bol de la politique
du chèque ? Tout est salaire et cotisations. Si on augmente les salaires, on augmente les cotisations, et voilà, c'est un cercle vertueux. Ça n'a pas été créé pour rien, et ça fonctionnait très bien. C'est de la même manière une volonté encore politique de détruire la sécurité sociale et notre modèle social.
Alors justement, ce modèle social hérité du Conseil national de la Résistance, on en parle beaucoup de ce Conseil national de la Résistance. Est-ce que vous imaginez un jour qu'on puisse un peu le sanctuariser ? Je n'aime pas tellement le terme, mais est-ce que vous imaginez qu'un jour on puisse dire, voilà, on n'y touche pas, on le garde en tant que tel, ou est-ce qu'il faut nécessairement le faire évoluer ?
Alors, le sanctuariser, je pense que ça serait effectivement nécessaire. Après, tout peut évoluer, mais le problème, c'est que là, en ce moment, ce qu'on fait évoluer, c'est par le bas. Vous voyez, alors qu'on a tout ce qu'il faut, on est un pays riche, on a tout ce qu'il faut pour faire évoluer les choses par le haut. Là, c'est toujours au moins 10 ans qu'on fait appel.
Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a pourtant, sur plusieurs rapports, il y a 8 rapports, je crois.
Et la dernière audition également, le COR a été auditionné le mois dernier, et il n'y a aucune nécessité de créer cette réforme des retraites. L'équilibre va... Alors, je crois qu'il y avait un petit déséquilibre là ces prochaines années, mais en 2050, tout est bon. Donc, il n'y a aucune nécessité de faire cette réforme.
Alors, on a entendu Emmanuel Macron qui, il y a quelques années, dans son premier quinquennat, disait « Oui, finalement, 62 ans, on ne bougera pas, etc. » Aujourd'hui, on parle de 64 ans. Est-ce que vous voyez plutôt là une posture politique ?
Oui, puisque voilà, on peut changer en 65, 64, voilà, on ne sait pas trop sur quoi ils se sont basés pour choisir l'âge de départ. Donc, c'est de la communication politique, bien sûr.
Alors, je parlais du contexte tout à l'heure. On va voir donc ces manifestations, on va voir dans les rues, dans l'après-midi, comment ces cortèges vont être fournis ou pas. A priori, je le disais, je le répète, aux chiffres qui ont pu arriver, nous aussi, les journalistes, on a été informés que ça allait sans doute être assez important. Est-ce qu'il y aura un avant, un après cette journée de manifestation ? Alors, on avait déjà dit que pour le 19 janvier, il y avait un après 19 janvier. Est-ce qu'il y aura un après si vraiment la France était dans la rue, s'il y avait un blocage aussi, parce qu'on parle beaucoup de blocage aujourd'hui.
On parle beaucoup de blocage, oui. Ben, écoutez, on va voir comment, l'ampleur de la mobilisation. On va voir ce que vont décider les syndicats, ce que vont décider aussi les forces de la NUPES par la même occasion. Mais oui, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais par contre, il faut faire une belle démonstration aujourd'hui pour motiver ceux qui sont encore un petit peu réticents. Et il faut surtout continuer à argumenter, à faire comprendre, parce qu'il y en a encore qui s'intéressent pas trop. Mais à nous de le faire.
Alors, Muriel Levrault, vous êtes une députée de terrain, vous rencontrez évidemment monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que vous disent les gens quand vous les rencontrez ? Quelles sont leurs priorités aujourd'hui ?
Alors, remporter la bataille, ça c'est certain. Les gens que je rencontre, généralement, sont inquiets. Alors, effectivement, pour leurs enfants et aussi pour le climat. Ça, je pense que c'est aussi une grande préoccupation. Alors là, pour l'instant, on en parle très peu puisqu'on est sur la bataille des retraites, mais c'est aussi une grande préoccupation des gens. Oui, bien sûr, surtout en Bretagne, on a quand même des enjeux assez importants, que ce soit pour l'eau, il y a eu quand même la sécheresse cet été. Donc le climat, effectivement, interroge beaucoup.
Justement, le climat, il y en est quand même question, on va en dire un mot, malgré qu'aujourd'hui on soit plutôt dans cette logique de grève et de retraite.
Mais il ne faut pas oublier.
Il ne faut pas oublier le climat. Aujourd'hui, il y a une grande angoisse aussi de la jeune génération qui s'inquiète évidemment pour ses retraites, pour l'avenir, qui s'inquiète aussi de cette guerre qu'on a aux portes de l'Europe. Est-ce que ce tout peut amener... je sais pas employer le terme révolution tout de même, mais peut amener un changement en France. Est-ce que Voilà, finalement, les aspirations du peuple français peuvent se faire jour.
On ne sait jamais quel peut être le déclencheur.
Je ne parle pas de violence, là.
Non, mais une prise de conscience et la volonté vraiment de changer notre modèle de société. Oui, je pense que...
Vous la sentez, cette demande de changement de société aujourd'hui?
Oui, ouais. Alors, des jeunes, ça, c'est certain. Mm-hmm. Après, il faut... Ça demande de l'investissement. Il faut vraiment que les gens soient unis pour aller vraiment pour prendre le chemin, pour le bon chemin.
Est-ce que quand vous rencontrez des gens, ils ont parfois la dent dure vis-à-vis du politique? Alors je mets le politique
oui,
en règle générale.
Oui,
général.
Tous pourris, ouais, bien sûr. Et c'est normal. Ça a été pendant pas mal d'années. On n'entend que ce qui... ce que les politiques font mal, de toute façon. Donc, c'est assez souvent. Après, ça peut être vraiment... On peut vraiment faire de la politique au sens noble du terme.
Donc, il faut changer la manière de faire de la politique aujourd'hui.
Nous, par exemple, à la France Insoumise, ce qu'on veut, c'est envoyer des gens à l'Assemblée. Moi, j'étais secrétaire avant, hein, donc voilà. Et il y a de plus en plus de gens à l'Assemblée. Et ça, je pense que ça peut changer les choses, parce qu'on voilà. Il y a 8 mois, j'étais secrétaire, j'étais militante, voilà. Et je reste militante.
on l'aura compris, hein, dans vos propos. Il reste une petite minute. Est-ce que c'est important que justement le peuple, alors quand je dis le peuple, c'est-à-dire Monsieur, Madame, tout le monde, ouais, puisse arriver à l'Assemblée? Alors parfois, on reproche, on a beaucoup caricaturé, par exemple, une députée LFI, femme de ménage, qui s'est beaucoup bagarrée. On l'a beaucoup caricaturée.
Elle est dans la bataille des retraites, là.
Voilà. On l'a beaucoup caricaturée en disant, mais oui, c'est pas, entre guillemets, une politique professionnelle. Est-ce qu'il faut arrêter ce professionnalisme de la politique aujourd'hui?
Oui. Ça, c'est vraiment important que ça ne devienne pas un métier, bien sûr. On a un mandat pour tant d'années. On a été élu sur un programme. Et maintenant, il faut travailler sur le programme. C'est pour ça qu'on est aussi pour la révocabilité des élus à mi-mandat. Si on ne travaille pas en fonction du programme qu'on a annoncé, on aimerait que les élus puissent être révoqués.
On va suivre évidemment ce dossier de la réforme des retraites. Je vais oser vous le demander, vous serez dans la rue aujourd'hui?
Ah oui. Là, je repars à Guingamp, là. Et je serai à Saint-Brieuc aussi cet après-midi. Donc il y a des manifestations aujourd'hui contre la réforme des retraites. Je vous ai dit pour la maternité le 11 février à Guingamp. Et pour l'hôpital de Lannion également le 4 février. Il y a des mobilisations un peu partout pour les hôpitaux. C'est vraiment très important aussi d'y être. Hein. Il faut vraiment un maximum de monde. Et donc, autrement, la réunion publique avec toutes les forces de la NUPES, dont Manon Aubry, le 3 février à Saint-Agathon.
Eh bien voilà, vous l'avez dit, les auditeurs l'auront entendu, le message est passé. Merci infiniment Muriel Levrault d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée LFI, la France Insoumise, groupe NUPES. Alors je ne sais pas si on dit NUPES ou NUPS.
Comme vous voulez.
Voilà, bon, alors, parce que ce n'est pas toujours évident. À l'Assemblée nationale, et vous êtes donc députée de la 4e circonscription des Côtes d'Armor, Guingamp, on l'aura compris. Ville chère à votre cœur. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Belle journée à vous, merci.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.